parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est riche, parce que tu veux toujours nous parler sans cesse, nous instruire, nous guider, nous éclairer, nous exhorter, nous encourager, nous fortifier. Et nous te demandons au moment de méditer ta parole ensemble, eh bien une double part de ton Esprit Saint, te demandant de souffler sur chacun d'entre nous, sur moi-même, sur chacun des personnes rassemblées dans ce temple, pour toucher les cœurs, pour nourrir, pour parler à nos cœurs et répondre à notre besoin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle et tu ouvres même nos oreilles pour que nous t'entendions. Alors, ouvre nos oreilles, Seigneur, encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre parcours dans le livre des Actes, et je le disais tout à l'heure, au tout début du culte, nous sommes à Corinthe. C'est une ville, vraiment une grosse ville avec deux ports. Une ville, comme je le disais, qui est mal famée. On dit à l'époque, vivre à la corinthienne, c'est vivre de façon dépravée, dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Le temple d'Aphrodite est immense, il y a 1000 courtisanes qui attendent, des courtisanes, des prostituées qui attendent le visiteur, comme dans les grands ports, que ce soit dans l'Antiquité ou encore aujourd'hui. Nous sommes à Corinthe et Paul est appelé par Dieu à être là. Il vient de passer à Athènes où il a prêché à l'Areopage et maintenant il va dans cette ville. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Paul, dans cette ville, est fragile, est faible. Sans doute ses paroles, vous savez, quand il écrira « C'est quand je suis faible que je suis fort ». C'est suite à ce passage à Corinthe qu'il a expérimenté cette fragilité et cette faiblesse. Et j'aimerais attirer votre attention sur cela en lisant ce passage dans Actes 18 et en même temps sur la parole d'encouragement, d'exhortation, de mission que donne le Seigneur à Paul dans ce contexte-là. Et tout l'impact qu'il va y avoir dans cette ville, je le disais tout à l'heure, il écrira deux lettres aux Thessaloniciens, aux Romains, il écrira également des lettres à l'église de Corinthe qui sont à la base de l'enseignement dans l'église encore aujourd'hui. Ce passage à Corinthe n'est pas anodin, mais il se fait dans une extrême fragilité. Nous lisons dans Actes au chapitre 18 et je lis les 22 versets. C'est le deuxième voyage de Paul alors qu'il prêche en Europe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y rencontra un juif appelé Aquilas, né dans la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla les trouver, et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes, il demeura chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque jour de sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi les juifs que les grecs, pardon, aussi bien les juifs que les grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul employa tout son temps à prêcher, en affirmant aux juifs que Jésus est le Messie. Mais les juifs s'opposaient à lui et l'insultaient. Alors il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera par votre propre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. » Il partit alors de là et se rendit chez un homme appelé Titus Justus qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, sois sans crainte, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir pour te faire du mal, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Paul demeura un an et demi à Corinthe. Il enseignait aux gens la parole de Dieu. À l'époque où Gallion était le gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs s'unirent contre Paul. Ils l'emmenèrent devant le tribunal et déclarèrent « Cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul allait se mettre à parler quand Gallion dit aux Juifs S'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave, je prendrais naturellement le temps de vous écouter, vous les Juifs. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms et sur votre propre loi, c'est à vous de vous en occuper. Je refuse d'être juge de telles affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal. Mais Gallion ne s'en souciait pas. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant de s'embarquer, il s'était fait raser la tête à Cendrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa Priscille et Aquilas. Il se rendit à la synagogue et y discuta avec les Juifs. Ils lui demandèrent de rester plus longtemps, mais il ne voulut pas. Il les quitta en disant « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut ». Et il partit d'Éphèse en bateau. Quand il eut débarqué à Césarée, il se rendit à Jérusalem pour y saluer l'Église, puis il alla à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il repartit. Il traversa successivement la région de Galatie, la Phrygie, en fortifiant tous les disciples dans leur foi. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais m'arrêter ce matin sur cette faiblesse, cette fragilité de l'apôtre Paul, qui vient peut-être rejoindre nos propres situations, nos vies, peut-être la vie de notre communauté. Et puis en même temps, entendre et réentendre avec vous la parole que Paul reçoit de Dieu dans cette situation. Je vous relis ces versets. « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, parce que je suis avec toi et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Paul est fragile, très fragile. À Corinthe, je dirais c'est Dieu qui fait le boulot. Nulle part, tout au long de ses voyages, Paul n'a été si bas, réduit à zéro. De nos jours, on pourrait dire, il vit un burn-out. On pourrait parler d'épuisement, de dépression. Ce bas-fond de la vie de Paul apparaît en filigrane dans le récit des Actes, et si on n'y prend pas garde, on ne le voit pas. Mais encore, il est plus souligné dans les Épîtres. Paul est tenté de fuir. C'est alors que Christ intervient personnellement, directement, au cours d'une de ses nuits, pour lui donner ses paroles « Ne crains pas ». Quelles sont les fragilités de Paul ? Eh bien, quand il arrive, il a une fragilité matérielle. Il dira dans la deuxième épître aux Corinthiens « Lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. » J'ai été dans le besoin. Sous-entendu, peut-être que Paul a eu faim dans ses débuts à Corinthe. Ce qui lui fait faire une trouvaille, non pas un billet de 100 euros, mais deux personnes, Aquila et Priscille, qui sont là au rendez-vous, deux chrétiens d'origine juive qui vont l'accueillir. Ils sont réfugiés de Rome et ils vont accueillir. Et surprise, ils font le même métier que Paul. C'est un peu surprenant parce que Paul, on pourrait croire que c'est un intellectuel qui a été formé par Gamaliel, mais sans doute à Tarse, qui était un lieu où on faisait des toiles, il a appris le métier de faiseur de tentes. Et il va vivre de ce métier. Seulement, en vivant cela, on peut s'apercevoir que sans doute il avait une fragilité matérielle. L'autre fragilité que je ressens dans ce récit, c'est l'opposition qu'il rencontre face aux Juifs. Il n'est pas écouté à son habitude, il va dans la synagogue pour enseigner. Mais au milieu de nos afflictions, heureusement que Timothée et Silas sont arrivés. Il le dira dans l'épître aux Thessaloniciens, il dit « Au milieu de nos afflictions, vous avez été pour nous un sujet de consolation ». Sous-entendu, il était affligé, Paul, de voir que ses frères juifs, parce qu'il est juif d'origine, n'entendent pas la bonne nouvelle. L'arrivée de ses compagnons vont lui apporter un soutien matériel, mais aussi un soutien spirituel dont il avait besoin. C'est une vraie rupture qui se passe dans ce récit, puisque Paul est obligé de secouer la poussière de ses vêtements et dire « la responsabilité n'est plus sur moi ». Je voudrais faire une petite parenthèse. Quand il va dire « je vais maintenant annoncer l'évangile aux non-juifs », je crois personnellement qu'il a continué à annoncer l'évangile aux juifs, puisque le chef de la synagogue s'est converti après ces paroles-là. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Il dira dans son épître aux Thessaloniciens qu'il a écrit, il dira aux Thessaloniciens, à deux reprises, j'ai voulu me rendre à Thessalonique, mais Satan m'en a empêché. Satan l'en a empêché. Sans doute, ces tensions, ces difficultés ont été à l'œuvre. Je voudrais rajouter une chose. On s'aperçoit dans ce récit également qu'il a dû vivre des choses difficiles. Il dira à propos de Priscille et Aquilas, dans l'épître aux Romains, qu'ils ont exposé leur tête pour lui sauver la vie. Paul a été menacé de mort, sans doute à Corinthe. Il va faire un vœu, nous le voyons à la fin de ce récit, quand il part, il ne se rase pas la tête. Ce vœu dénote à coup sûr un état de trouble. On faisait ce genre de vœu pour une guérison face à une grande maladie ou une délivrance face à un danger. Beaucoup de Corinthiens ont gardé d'ailleurs de Paul le souvenir d'un homme souffreteux, éprouvé. Ils diront « Ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Pourtant, la puissance de Dieu s'accomplit dans cette faiblesse. Et je voudrais souligner cela. Voilà que dans cette situation éprouvante, il reçoit un encouragement particulier du Seigneur lui-même. Celui-ci vient à lui de nuit dans une vision et lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Si j'insiste sur cela, c'est que la situation de Paul, à certains égards, peut être la nôtre. Nous pouvons nous sentir très fragiles, peut-être pour une question matérielle, peut-être pour une tension particulière, peut-être par rapport à une attaque particulière dans nos vies, peut-être par rapport à une dépression, peut-être par rapport à telle ou telle situation, nous sentir tellement fragiles. Eh bien, le Seigneur vient encore aujourd'hui nous donner cette parole, tout d'abord un encouragement, ne crains point. Cette expression « ne pas craindre » se retrouve à plusieurs reprises dans l'Écriture, parfois au pluriel, « ne craignez pas ». Mais souvent, c'est une parole tout à fait personnelle que Dieu adresse à quelqu'un. Par exemple, à Abraham. À Jean, il dira dans l'Apocalypse « ne crains point ». Dans le passage qui est devant nous, l'encouragement est en rapport avec le service. La mission qui est devant lui est difficile, mais le Seigneur lui fait clairement comprendre qu'il n'a rien à craindre. Et ce récit me fait penser à un personnage particulier de l'Écriture, c'est Josué. Ne crains pas, Josué. C'est à la mort de Moïse, Josué doit conduire le peuple. Grande mission, le Jourdain étant cru, encore une épreuve. Josué se sent peut-être tout fragile, il n'est pas Moïse. Et pourtant Dieu lui dit, ne crains pas, sois courageux et fort, je vais être avec toi. Et je serai partout où tu iras, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai jamais. Il va y avoir du concret. Dieu va donner Priscille et Aquilas. Il va donner Silas et Timothée. Il va donner Galion. Il va donner Apollos aussi, qui va prendre la suite de la mission de Paul. Un encouragement, ne crains pas. Mais une exhortation également. Parle, ne te tais pas. L'encouragement est suivi de cette exhortation de parler, de ne pas se taire. Il y a des moments dans nos vies où on doit se taire. Il y a des situations où on ne doit pas parler. Mais il y a d'autres situations avec un discernement particulier où Dieu nous dit « c'est le moment de parler, c'est l'occasion favorable » comme dit l'apôtre Paul. Peut-être dans ta vie, il y a une situation où tu n'oses pas parler. Ou tu as peur parce que tout simplement tu te dis, mais est-ce que j'aurai les mots pour le dire? Est-ce que la situation est adéquate pour parler? Mais demande le discernement du Saint-Esprit pour voir si c'est le moment de parler. Il y a une campagne qui est à l'heure actuelle dans le cadre du Conseil national des évangéliques de France qui dit, c'est libre de le dire. 4 ou 5 livres ont été écrits pour dire, nous sommes libres de dire. Il y a des moments où nous devons dire au cœur de notre société cette bonne nouvelle. N'hésitons pas à confesser de notre bouche notre Seigneur. Et l'apôtre Paul dira à son fils spirituel Timothée, quelques années après, n'aie pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte de l'Évangile. Un encouragement, une exhortation et une promesse. Je suis avec toi. La mission qui t'est confiée, ce n'est pas la tienne, c'est la mienne. C'est ma mission. Ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Il l'a dit à Jérémie cela, alors qu'il envoyait annoncer une parole à contre-courant. Oui, Jérémie a écrit les Lamentations de Jérémie, mais il a été témoin avec cette présence alors qu'il était dans la citerne. Eh bien, Dieu l'a accompagné. Je serai avec toi. Alors qu'il était encerclé et qu'il annonçait que la délivrance aurait lieu 70 ans après, Dieu était avec Jérémie pour lui donner la force. Comme pour Josué, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai jamais. Un encouragement, une exhortation et une promesse, frères et sœurs. Quand Dieu nous envoie, il nous promet d'être là. Dieu donne ce qu'il ordonne. Finalement, ce n'est pas ma mission, c'est l'œuvre du Christ. Et je voudrais terminer avec cela, parce que Dieu fait un privilège à Paul, donne un privilège à Paul, c'est d'avoir une vision pour l'avenir. Et il dira, cette quatrième parole, j'ai un grand peuple dans cette ville. Mon peuple est nombreux dans cette ville. Peut-être Paul voit qu'un petit groupe qui se retrouve chez Crispus, mais Dieu y voit beaucoup plus loin. Il ne voit pas simplement les 5 pains et les 2 poissons, il voit déjà les 12 corbeilles. Il rend grâce pour les 12 corbeilles. Frères et sœurs, dans la plupart des cas, nous ne savons pas quels seront les résultats de notre service, de notre travail, mais Dieu le sait. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Je vous raconte cette petite anecdote. Quand j'étais étudiant en théologie, avec les autres étudiants, nous avons monté un groupe de musique. Ça s'appelait les Bodégas, peut-être certains s'en rappellent. On était 5 jeunes à faire de la musique, du théâtre, et on a fait une 20aine de représentations en France. C'était notre stage de 3e année. Et puis, 10 ans après, on reçoit une lettre. C'était au Havre, on n'avait pas été super bien reçus, je dois le dire. On reçoit une lettre d'un monsieur et il s'était donné au Seigneur 10 ans avant, pendant cette soirée, ce concert d'évangélisation. On ne le savait pas. Dieu est à l'œuvre et il se passe des choses dans les cœurs, dans les vies. Dieu touche. Je voudrais vous dire simplement que ce qui se passe ici, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de personne importante. Je vous ai lu ce passage chez les Corinthiens. Il n'y a pas de personne sage, des familles importantes. Je l'ai lu tout à l'heure. Mais Dieu est à l'œuvre et va toucher. Il dira, un peu plus loin, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Dieu va toucher des cœurs à Corinthe. Il est à l'œuvre. Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Alors je voudrais vous laisser cette question. Y a-t-il un peuple nombreux à Aix-en-Provence que Dieu attend? Oui, je le crois. Oui, cette ville, dans cette ville et dans tout ce pays d'Aix, il y a un peuple nombreux que Dieu attend. Mais en même temps, Dieu prend plaisir à nous envoyer, à nous utiliser dans cette mission. Il pourrait le faire tout seul, mais il nous envoie. On ne voit pas toujours les résultats, on sent parfois notre fragilité, mais la mission est là. Dieu nous dit encore ce matin, ne crains pas, parle et ne te tais point. Là où je te place, je suis avec toi et j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Que le Seigneur nous bénisse chacun, chacune dans ce témoignage au cœur de cette ville d'Aix-en-Provence et de ses alentours. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous connais, tu nous as façonnés comme tu connaissais l'apôtre Paul. Tu sais peut-être les fragilités que nous vivons en ce moment. Nous te les présentons, Seigneur. Nous te présentons nos vies. Nous ne méritons même pas de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais viens toi-même par ton esprit nous renouveler, nous fortifier, nous envoyer. Viens toi-même malgré nous et notre petitesse, notre fragilité, toucher des cœurs encore. Nous te prions pour nos familles, nous te prions pour ceux qui nous sont proches. Nous te prions pour ceux et celles à qui nous avons du mal à parler de toi, à témoigner. Accorde-nous ces occasions favorables. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles que nous croisons dans cette ville, peut-être nos voisins, peut-être nos collègues de travail, peut-être cet inconnu que nous croisons dans la rue et que toi tu connais. Nous te prions pour ceux et celles qui rentrent dans ce temple, peut-être par hasard avec un grand dé, et qui ont le désir d'entendre une parole de toi. Nous te prions pour le rayonnement de notre communauté au cœur de cette ville. Nous te prions, Seigneur, enfin, de nous accorder la paix. Nous te prions pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui prennent des décisions pour ce pays et pour le reste du monde, afin qu'encore nous puissions librement partager l'Évangile. Et nous te remercions pour cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Et j'ai choisi un passage de la deuxième épître aux Corinthiens pour ce temps d'exhortation. 2 Corinthiens 5, verset 15, « Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique qui dit « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». C'est le numéro 616, 616, la première et la quatrième strophe de ce cantique. bon dimanche à tous.